Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, un procès crucial pour toute l'Europe s'est ouvert ce matin. Procès de 12 indépendantistes catalans un an et demi après la tentative de sécession. L'Espagne est à nouveau bouillante. Ce sujet de la Catalogne met en difficulté le gouvernement. Nous allons à Madrid dans un instant. L'Europe encore, nous irons à Manchester ensuite, l'une des capitales du foot. Manchester PSG ce soir à Old Trafford. Et en ce jour de grand match en Angleterre, la mort d'un grand joueur britannique. Le gardien de but Gordon Banks, il a inspiré une génération entière d'amateurs de ballon. La violence tous azimuts gangrène cet hiver en France. Dégradation dans les églises, contre des permanences de députés en marche, violence des mots sur Internet. Et ce chiffre saisissant qu'il faut expliquer, les actes antisémites en hausse de 74%. Corinne Audouin nous détaille. Sur ce climat de violence, notre invité sera le sociologue Michel Wieworka. L'enquête sur la tentative d'intrusion au ministère de Benjamin Griveaux progresse, 6 gardes à vue. Dans ce journal encore, quelle réforme pour le permis de conduire? Le rapport remis ce matin. Pourquoi le vaccin contre la grippe est-il moyennement efficace cette année? Le plan Godin pour rénover les écoles de Marseille tombe à l'eau et les insectes menacés de disparition sur la planète. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Eh ben là, voilà la bonne nouvelle du côté de la météo, l'anticyclone s'installe.
Oui, du soleil sur l'ouest, sur le sud du pays. Il revient également sur la partie ouest de l'île de France. En revanche, plus à l'est, comme sur les régions du quart nord-est, ça reste encombré. On devrait quand même retrouver quelques rayons de soleil dans l'après-midi, mais assez discret. Et puis pour les températures, 5 à 16 degrés.
Je ne vous demande pas la température en Finlande. Nous irons en Finlande dans une ville de fake news à la fin de ce journal. Vous comprendrez. Et un voisin européen de plus où le paysage politique se brouille. L'Espagne, droite et extrême droite, se rapprochent alors que le dossier de la Catalogne est à nouveau à la une. Ce week-end, des manifestations de toute la droite contre le pouvoir socialiste jugé trop conciliant à l'égard des indépendantistes. Et aujourd'hui s'ouvre le procès de 12 responsables poursuivis pour rébellion, accusation très grave en Espagne. C'est la conséquence plus d'un an et demi après de cet automne 2017 où les indépendantistes ont organisé un référendum illégal en Espagne, puis proclamé la sécession de la Catalogne. Ouverture du procès ce matin à 10h20 à Madrid. Compte rendu d'audience pour France Inter, Marie-Hélène Ballestero.
Le jour J est arrivé. Sur le banc des accusés, 12 dirigeants indépendantistes. C'est l'avocat de l'ancien vice-président catalan Oriol Junqueras qui a pris la parole en premier. Il a planté le décor. Pour lui, il s'agit d'un procès politique. Olivier Peter, l'avocat de Jordi Cuixart, l'ancien leader de l'entité souverainiste Òmnium Cultural, est du même avis.
C'est certainement un des procès les plus importants de l'histoire moderne. Le vice-président d'une région et les principaux leaders des organisations de la société civile sont jugés. On demande des centaines d'années de prison pour des actes qui relèvent de l'exercice de leurs droits fondamentaux. C'est un procès politique, c'est un procès qui aura un impact sur l'avenir politique de l'Espagne et de la Catalogne certainement. Donc c'est certainement un des procès les plus importants en Europe de ces dernières décennies.
L'ambiance est tendue à l'intérieur du tribunal, mais aussi à l'extérieur. Des manifestants anti-indépendantistes se sont donné rendez-vous tôt ce matin pour manifester leur colère. José est catalan, il s'est déplacé spécialement pour le début du procès.
La Catalogne est très divisée. Plus de la moitié de la population ne veut pas de l'indépendance. Ils n'arrêtent pas de répéter qu'il s'agit d'un peuple uni, mais c'est faux. Ils ne nous ont jamais pris en compte. Ils nous méprisent. On est plus de 2 millions à ne pas être indépendantistes et ils nous ignorent complètement.
Le procès doit durer environ 3 mois. On devrait connaître le verdict cet été.
Pour ce reportage de Marie-Hélène Ballestero, on l'entend, Espagne divisée, Catalogne divisée, indépendantiste divisée au moment où s'ouvre ce procès. Celui qui avait mené la contestation en 2017, Carles Puigdemont, est en exil ou en fuite, c'est selon, à Berlin. Mais il prend la parole à propos de l'audience de ce matin et du procès qui s'ouvre pour 3 mois. Il parle de mascarade.
Pourquoi c'est une mascarade? Il y a des problèmes formels, des juridictions qui sont claires, absolument claires dans le cadre même de la loi espagnole. Il y a eu de fausses preuves. Il y a eu le rejet d'une grande quantité de témoins, une grande quantité de preuves proposées par la défense. Par exemple, moi-même, je demandais d'être témoin de ces procès. Parce que moi, je crois que j'ai quelque chose à dire. Ils ont rejeté. Ils ont refusé. Donc je ne peux pas être témoin d'un judice qui va juger mes collègues pour avoir suivi mes ordres. Ils ont peur de quoi exactement que je puisse être témoin? de ces procès.
Un propos recueilli par Nathalie Versieux à Berlin. Et demain, à Madrid, le vote du budget et le gouvernement socialiste minoritaire qui a besoin de l'appui des indépendantistes. Un autre motif de fâcherie en Europe, le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin. Gaspillage d'argent public, disent les Italiens qui publient un document selon lequel ce projet aurait un impact financier négatif de 7 milliards d'euros. L'Europe encore, de manière beaucoup plus légère, mais cela va occuper beaucoup de gens aujourd'hui. Un grand match dans un grand stade ce soir en Angleterre, Manchester PSG à Old Trafford. Et d'abord, un grand joueur qui vient de disparaître. Il était surnommé Banks of England, c'est dire son importance. Gordon Banks, le gardien de but de l'équipe d'Angleterre, championne du monde, vient de mourir à 81 ans. Toute une génération d'amoureux du foot a eu son poster dans la chambre, comme d'autres ont eu Zidane ou Mbappé. Bonjour Cédric Guillot.
Bonjour.
Cédric, vous êtes à Manchester pour France Inter pour couvrir le match de ce soir. Mais évidemment, il n'est question que de Gordon Banks au pays du foot aujourd'hui.
Oui, et s'il y avait une image à retenir de Gordon Banks, ce serait l'arrêt réalisé devant Pelé lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique. Un réflexe incroyable qui a d'ailleurs été élu arrêt du siècle. C'est une manchette détournée au-dessus de sa transversale après une tête du Brésilien au ras du poteau. À l'époque, Pelé avait même déclaré « J'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté ». Il a été champion du monde en 1966 avec l'Angleterre. Il était considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Peter est supporter de l'équipe nationale d'Angleterre.
C'était l'un des meilleurs gardiens du monde, même si moi je ne l'ai pas vu jouer puisque j'étais trop jeune, je sais que c'était une légende.
Une légende qui connut une fin de carrière brutale, victime d'un accident de la route qui lui coûta l'usage de son œil droit en 1972. Gordon Banks dut alors stopper sa carrière alors qu'il était encore au sommet de sa forme.
Allez Cédric Guillon, un mot du match de ce soir quand même. Manchester United, PSG, huitième de finale de la Ligue des Champions. Bon, la tendance est aux idées noires, hein, côté français, après les forfaits de Neymar, de Cavani, Meunier absent également. Ils sont à ce point-là en difficulté, les Parisiens, ils n'ont aucune chance ce soir, Cédric ?
Ah si, ils ont encore des chances parce que effectivement les absences de Neymar et Cavani sont forcément préjudiciables, mais le Paris Saint-Germain aura quand même sur le terrain sa pépite, Kylian Mbappé, et puis le toujours précieux argentin André Di Maria en attaque, et ce sont des armes offensives qui peuvent faire souffrir n'importe quelle défense en Europe, et notamment bien sûr celle de Manchester United. La vitesse, les déplacements d'Mbappé, la vista et la technique de Di Maria, et puis on n'oublie pas le retour en milieu de terrain de Marco Verratti, qui a été longuement blessé en décembre, qui a fait son retour la semaine dernière face à Bordeaux. Donc Paris a encore des atouts pour résister ce soir à Manchester United, pour résister aux 72 000 spectateurs qui seront présents à Old Trafford. Et puis n'oublions pas, Bruno, que ce n'est que le premier acte de cette double confrontation face à Manchester United et qu'il y aura un match retour le 6 mars prochain au Parc des Princes.
Un coup d'envoi ce soir à 21h. On vous écoutera, Cédric, dans le même temps, toujours en huitième de finale de cette Ligue des Champions. Il y aura AS Rome Porto.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Nous allons en France à présent, 74%. Il faut des explications sur ces chiffres impressionnants donnés hier par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les actes antisémites en hausse de 74% en France l'année dernière. Alors on ne doute pas hein, qu'il y ait une résurgence des actes antisémites entre les tags sur les portraits de Simone Veil dans le 13e arrondissement, les inscriptions antisémites sur la façade du journal Le Monde, toujours à Paris, ou encore la devanture d'un magasin de bagel tagué. L'arbre en hommage à Ilan Halimi, si également, cela fait beaucoup, mais ce chiffre de 74% étonne. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Qu'y a-t-il derrière cette statistique, Corinne ?
Alors, il faut dire en préambule qu'il est très difficile de mesurer ces actes avec précision. Cette hausse correspond à 541 actes antisémites recensés en 2018 par le ministère de l'Intérieur contre 311 en 2017. Le terme d'acte antisémite regroupe les violences aux personnes, les atteintes aux biens, mais aussi les menaces, les injures, la provocation ou la profanation de sites religieux. Pour produire cette statistique, eh bien, on recoupe les faits comptabilisés par les services du renseignement territorial et les procédures de police et de gendarmerie. Or, depuis 2018, l'accent a été mis sur la formation, la sensibilisation des agents à mieux prendre en compte, lors d'une plainte, le caractère raciste, antisémite ou xénophobe d'une agression. Depuis l'été dernier, on peut déposer plainte en ligne pour ces faits, ce qui n'était pas le cas avant. La communauté juive a aussi été sensibilisée à l'importance de tout signaler, même une injure, même un tweet, ce qui est donc certain. C'est que les actes antisémites, comme les actes racistes, mais aussi les violences homophobes par exemple, sont de mieux en mieux prises en compte. Les chiffres croissent donc, sans que cela signifie que les actes augmentent au même rythme. Alors ceci posé, le constat du ministère de l'Intérieur, c'est tout de même celui d'une persistance des préjugés antisémites, dont une partie liée à l'importation du conflit israélo-palestinien, avec une décomplexion de la parole antisémite et complotiste, notamment sur les réseaux sociaux, et une banalisation du recours à la violence qui s'exprime aussi, vous l'avez dit par exemple, contre les permanences et les domiciles des parlementaires.
Et cette violence justement, en marge ou pendant les manifestations depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, parlons-en à présent, cette tentative d'intrusion dans le ministère de Benjamin Griveaux le 5 janvier, tentative avec un engin de chantier. Eh bien, l'enquête progresse. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
6 personnes arrêtées et placées en garde à vue.
Oui, il y a d'abord eu 4 interpellations dans un premier temps ce matin, puis 2 supplémentaires. Un coup de filet qui a eu lieu dans 2 régions, des Hauts-de-France et d'Île-de-France. 6 personnes âgées de 22 à 54 ans placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête ouverte par le parquet de Paris et interrogées par les enquêteurs du 3e district de la police judiciaire parisienne. Ce sont eux, ces enquêteurs, avec l'aide de la police scientifique du 36, qui sont remontés à ces 6 suspects sur les 15 présents ce jour-là rue de Grenelle, devant le ministère où se trouve le bureau du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Une enquête sur la base d'exploitation vidéo, des empreintes, avait également été prélevée sur le transpalette qui a servi à défoncer la porte du ministère, ainsi qu'une vitrine d'une agence bancaire de la Société Générale un peu plus loin. Parmi les suspects, il y aurait justement le chauffeur de l'engin de chantier. Le groupe interpellé ce matin serait lié à une mouvance d'extrême gauche connue pour ses actes violents.
Ajoutons au contexte les dégradations qui se multiplient dans les églises, la violence récurrente sur les réseaux sociaux, sur Internet. Sur ce climat, nous avons interrogé en milieu de matinée un sociologue qui a travaillé sur cette question de la violence, Michel Wieworka, propos assez sombre.
L'ambiance est aujourd'hui à la relégitimation dans certains secteurs de la violence, à l'incapacité réellement d'endiguer les tonneaux de haine qui se propagent un peu partout. Donc l'ambiance, elle est de toute façon délétère, elle est très inquiétante, et elle est d'autant plus inquiétante qu'un certain nombre de personnes se disent « la violence a payé avec les gilets jaunes, donc allons-y ».
Justement, allons sur ce sujet. Le contexte, en effet, une violence qui s'exerce au grand jour depuis 3 mois dans les manifestations, les permanences d'élus En Marche qui sont dégradées, les violences sur les réseaux sociaux, dans les églises également, toutes ces dernières semaines. On parle de contextes radicalement différents, mais au fond, est-ce que la libération d'une forme de violence constitue un appel d'air pour d'autres violences ?
Bien sûr, malheureusement, nous sortons d'une période historique où pendant une trentaine ou une quarantaine d'années, la violence était complètement délégitimée. L'idée révolutionnaire était abandonnée parce qu'elle était devenue le fait de pays comme l'Iran ou même d'une certaine façon l'Algérie. Les idéologies donc qui accompagnaient des légitimations de la violence n'avaient pratiquement plus d'audience. Et on voit que tout s'y revient à la charge. Et c'est catastrophique. Et donc ça libère beaucoup de choses un peu partout. Ce qui est singulier en France, c'est que le retour de la violence, il s'opère socialement avant de s'opérer politiquement. C'est dans un contexte de crise politique et de mouvement social que réapparaît une certaine légitimité de la violence dans certains milieux.
Quel milieu ?
Mais écoutez, vous avez des milieux d'extrême droite, vous avez des milieux d'extrême gauche, et je dirais même dans une population plus, au sein d'un monde plus diffus, l'idée que la violence, ça paye. Que le gouvernement n'entendait rien jusqu'au jour où des ultras de gauche, des ultras de droite, des casseurs, des pilleurs, mais aussi d'ailleurs des gilets jaunes, ont affronté les forces de l'ordre.
Quelles sont les portes de sortie ?
Il faut raisonner en se disant qu'il y a au moins 2 temporalités totalement différentes. Il y a l'urgence, l'immédiat, ce qu'il faut faire pour calmer le jeu tout de suite, et il y a le plus long terme. Alors le plus long terme, c'est évidemment d'une part des efforts en matière d'éducation, et d'autre part des efforts en matière de régulation, de tout ce qui se joue sur Internet. Vous savez, en 1881, il y a eu une grande loi sur la presse qui a calmé le jeu. La presse, à l'époque, était un peu capable aussi de dire n'importe quoi. Eh bien, nous sommes en période de réflexion sur comment réguler l'Internet et les réseaux sociaux. Toujours sur le plus long terme, évidemment, tant qu'il y aura cette crise politique, nous aurons ce climat dans lequel la violence, les rumeurs, la haine, etc. trouvent leur place.
Vous parliez d'Internet, Michel Wieworka. Est-ce que le sociologue que vous êtes dit que la libération de la parole violente amène nécessairement à la libération des actes violents ?
Alors, jamais un sociologue ne vous dira ça, parce que le passage à l'acte est quelque chose de très mystérieux. Donc,
on ne peut pas généraliser.
L'idée d'une détermination comme ça, automatique, c'est plus compliqué que ça, mais un climat de haine systématique favorise le passage à l'acte. Et on est dans un climat comme ça, plus propice au passage à l'acte.
Michel Wieworka, pour me faire l'avocat du diable, vous disiez tout à l'heure, certains se disent la violence a payé. Ils ont en partie raison. Je veux dire par là que des mesures ont été annoncées, prises à partir du moment où il y avait des manifestations violentes le week-end.
Je pense que le pouvoir a mal géré le début de toute cette affaire. Quand il était possible de le gérer sans que ça dégénère en quelque sorte, avec toutes ces violences qu'on a pu voir, le pouvoir n'a pas agi comme il aurait fallu. Et puis ensuite, progressivement, il reprend la main. Le grand débat en particulier et la vie politique qui reprend quand même un peu vie. Mais oui, il y a eu du retard, il y a eu de la mauvaise gestion et il faut bien dire quand même une chose, c'est qu'il y a eu un moment où la violence, donc l'action, et le sens, c'est-à-dire le contenu des demandes, on sentait qu'il y avait une certaine articulation. On sentait qu'entre ce qui se passait sur les ronds-points et ce qui se passait à Paris, avait des liens forts. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où les eaux se séparent. On ne comprend pas absolument quel est le sens social des affrontements qu'on a pu voir à Lyon entre ultra-gauche et ultra-droite, par exemple. Tout ça devient d'une autre nature. Et donc la violence se sépare du sens, du contenu, de ce que demandait au départ le mouvement des Gilets jaunes, qui lui-même entre dans une période de tension interne, de difficulté. Donc on est dans une nouvelle phase, mais il faut bien voir que la violence aujourd'hui a de moins en moins, je ne dis pas qu'elle n'a plus rien du tout, mais a de moins en moins à voir avec le sens de l'action. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle appelle de l'enquête, de la justice, de la police, des sanctions et je dirais une main de fer, même si jusqu'ici cette main de fer a été dans un gant de velours, je veux dire la police avec quelques excès bien sûr, mais enfin on peut pas dire qu'il y a eu des morts causées par la répression.
Voilà, ce qui n'empêche pas la controverse sur l'armement et l'attitude de certains policiers. Michel Wieworka, le sociologue, entretien enregistré en milieu de matinée. Vous en avez une version plus longue sur franceinter.fr où notamment il évoque l'antisémitisme. Michel Wieworka, auteur de ce livre l'année dernière aux éditions textuelles « Face au mal, le conflit sans la violence ». Parmi les conséquences des gilets jaunes, du mouvement des gilets jaunes, les conséquences économiques et les commerçants et élus des grandes villes qui se plaignent de la baisse d'activité, eh bien, ils seront reçus demain à Bercy par le ministre de l'économie. Nous parlions hier de ce rapport qui inquiète les auto-écoles, mais réjouit peut-être beaucoup de jeunes adultes. Comment les aider à passer le permis de conduire plus vite et en dépensant moins? Eh bien, ce rapport de la députée En Marche, Françoise Dumas, vient d'être officiellement remis au Premier ministre. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Alors, que contient le texte? Il y a notamment une mesure, Claire, qui attire l'attention, c'est la possibilité de passer le permis dès 17 ans.
Oui, conduire permis en poche sans adulte et cela dès 17 ans. Mais cette mesure, si elle est retenue, ne concernerait que 24% des candidats, ceux qui font la conduite accompagnée. Conduite accompagnée qui doit par ailleurs être développée, démocratisée. Et c'est peut-être l'un des points forts du rapport. Au-delà de cette question de l'âge, il faut que les jeunes les moins favorisés puissent y avoir accès, aidés par les missions locales par exemple, explique la députée Françoise Dumas.
Ceux qui ont besoin au quotidien d'avoir le permis pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir faire un apprentissage, eh bien ça serait, je pense, une chance supplémentaire. Ça réduit l'accidentologie considérablement. Actuellement, c'est un peu limité aux familles les plus aisées ou les plus structurées, parce qu'il faut de la patience, il faut une voiture, il faut des parents. On souhaiterait pouvoir développer tout un accompagnement associatif, des bénévoles qui pourraient venir accompagner les jeunes dans la conduite au quotidien.
Autre mesure clé, l'intégration gratuite du passage du permis de conduire code des conduites dans le futur service national universel entre 16 et 18 ans, ou encore la suppression des places réservées par les auto-écoles pour l'examen du permis, mesure qui risque de favoriser les auto-écoles en ligne. Ça fait bondir, vous l'avez dit, les représentants des auto-écoles de proximité. Il y a de la place pour tout le monde, répond Françoise Dumas, à condition d'être capable, dit-elle, de se moderniser face à la colère salaire des moniteurs. Elle assure qu'il y aura plus de contrôle et de transparence avec des labels qualité pour que les consommateurs puissent faire le tri face aux différentes offres d'accompagnement sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Claire Chaudière en direct de Matignon avec Romain Lucquens. Quelle sera la réforme du permis de conduire? Le gouvernement se prononcera de façon complète après le grand débat. Grand débat qui doit s'achever le 15 mars prochain. Moins de 2 ans après la conquête de l'Elysée, avec qui, quelle garde rapprochée Emmanuel Macron gouverne-t-il? La bande de très proches qui a conquis et exercé le pouvoir les premiers temps est en train de partir. Après Sylvain Faure, la plume, Ismaël Emelien annonce sa démission. Sur cette garde rapprochée qui est de plus en plus clairsemée, vous trouverez des détails sur franceinter.fr. Dans l'actualité politique encore, ce curieux dîner organisé la semaine dernière par le ministre de l'écologie François de Rugy. On était en pleine affaire Baupin, Denis Baupin, ex-vice-président de l'Assemblée, écolo lui-même, accusé de harcèlement et agression sexuelle et qui portait plainte pour diffamation. Le procès se tenait la semaine dernière, il a été débouté, Denis Baupin, les audiences ont même été l'occasion de nouveaux récits de ces agressions. Et alors que se tenait ce procès, qui était invité à la table du ministre de l'écologie, Denis Baupin? Récit Yannick Falt.
Le dîner a eu lieu le 31 janvier, soit 4 jours avant l'ouverture du procès. Les agapes se sont déroulées au ministère, à l'hôtel de Roquelaure, boulevard Saint-Germain, avec une vingtaine de convives autour de la table. Denis Baupin, accompagné de son épouse, Emmanuelle Cosse, ancienne ministre de François Hollande, Jean-Vincent Placé, qui était également au gouvernement dans le précédent quinquennat, et toute une série d'élus ou anciens élus, dîner apparemment embarrassant. L'une des participantes nous raccroche au nez quand on l'interroge sur le rendez-vous. Joint par France Info, François de Rugy explique que le dîner était prévu de longue date. Le numéro 2 du gouvernement assure qu'il n'était pas au courant du procès, qu'il n'aurait pas organisé le rendez-vous, sinon que le sujet n'a jamais été évoqué. François de Rugy concède un télescopage de date, mais il se défend. Bien sûr que le dîner ne vaut pas soutien à Denis Baupin. Explication qui ne convainc pas un témoin du procès qui dénonce, je cite, « un dîner entre potes, harceleurs ou protecteurs d'harceleurs qui se serrent les coudes ».
Voilà pour ces précisions de Yannick Falt. La chronique santé dans ce journal de 13h chaque mardi. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Des explications cette semaine, Daniel. Comment se fait-il que le vaccin contre la grippe cette année soit aussi moyennement efficace?
Alors effectivement, les médecins voient arriver dans leur cabinet des personnes qui ont déjà été vaccinées. Certes, le vaccin n'est jamais efficace à 100%, mais le problème cette année, c'est que sur les 4 virus compris dans ce vaccin, il y a 2 types B, il y en a un autre qui s'appelle H1N1. Là, l'efficacité est classique. Le problème, c'est le quatrième qui s'appelle H3N2. Cette composition vaccinale a été décidée en février 2018, mais on ne peut pas tout prévoir un an à l'avance, comme l'explique Vincent Hénouf, il est virologue à l'Institut Pasteur.
En février 2018 a été prise la décision de changer la composition, comme chaque année, on la change ou on la change pas. Et donc là, on avait une nouvelle constitution du vaccin. Et il faut 6 mois pour préparer ce vaccin, pour qu'il soit produit par les firmes pharmaceutiques et qu'il soit ensuite libéré, les lots soient libérés et donc vendus au niveau des pharmacies. Pendant ces 6 mois, le virus grippal continue à circuler au niveau de l'hémisphère sud et à acquérir des mutations qui peuvent engendrer des modifications telles que l'on peut observer cette année et donc avec un vaccin qui fonctionne un peu moins bien que ce qui était prévu.
Et d'ailleurs, Daniel, c'est très rapidement que va se décider la composition du vaccin de l'an prochain. On écoute à nouveau le virologue Vincent Hénouf.
C'est Genève, c'est l'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui prend cette décision de changer ou pas avec tous les virus qui vont être isolés dans le monde entier actuellement. Par exemple, nous, le laboratoire à Paris, on envoie une sélection de souches au centre collaborateur OMS à Londres et des tests à nouveau sont effectués sur ces souches de telle manière à identifier si on a un virus très différent et s'il est différent, est-ce qu'il est valable en effet de le mettre dans la composition vaccinale sachant qu'il évolue très vite.
Alors cette année, il y a donc effectivement des mutations pour le H3N2 et une mauvaise réponse en France. Mais le vaccin a beau avoir été conçu pour tout l'hémisphère nord, et bien comme les virus font un peu ce qu'ils veulent, il ne se passe pas la même chose partout.
Si cette année, nous n'avions en France que du H1N1 pandémique, eh bien on aurait une efficacité vaccinale qui serait tout à fait bonne. En revanche, au même moment, les États-Unis, pour lesquels on a un virus H3N2 qui circule en majorité, donc là on aurait une efficacité qui serait moins bonne. Donc toute la difficulté, c'est de trouver une composition vaccinale pour l'ensemble de ces pays qui ne vont pas forcément avoir comme virus majoritaire le même.
Bon, et on est d'accord, hein, Daniel Messager, ça ne remet pas en cause pour autant le principe de la vaccination contre la grippe.
On est d'accord, car en cas de grippe, elle sera de toute façon atténuée. N'oublions pas qu'une bonne grippe, c'est plusieurs jours au lit avec de la fièvre, des courbatures et une grande fatigue derrière. Et surtout sur les personnes plus fragiles, ça évitera un séjour à l'hôpital en réanimation.
Un mardi prochain, Daniel Messager, une confirmation à présent, elle est terrible. Les insectes sont en train de disparaître de la surface de la Terre. 40% des espèces sont en déclin. C'est dans la revue scientifique Biological Conservation qui compile d'autres études. On en a déjà parlé dans ce journal. Une fois de plus, Sandy Dauphin, les scientifiques sonnent l'alarme.
Il n'y a pas que le panda et les espèces emblématiques qui sont menacées d'extinction. Les moucherons, les fourmis, les bousiers sont moins visibles, parfois mal aimés, mais tout autant en danger. François Letourneux, vice-président de l'Office pour les insectes et l'environnement.
Autant il y a des gens pour s'intéresser aux papillons, mais les gens qui s'intéressent aux petites mouches, ils sont pas nombreux.
En 2017, une étude allemande s'est justement intéressée à la masse totale des insectes. Les travaux menés par la société entomologique Krefeld montrent l'effondrement des insectes volants.
Cette société entomologique déposait des pièges pour capturer les insectes volants dans 63 réserves naturelles d'Allemagne. En 1989, quelqu'un a eu l'idée de peser le total des insectes. On a recommencé 20 et quelques années plus tard. Et on a constaté avec stupéfaction qu'on était à moins 80%.
Or, les insectes sont vitaux pour les écosystèmes, rappelle François Letourneux.
Les insectes rendent des services parce qu'ils pollinisent les plantes, parce qu'ils capturent d'autres insectes qui sont nuisibles. Ils participent à nourrir des quantités d'autres êtres vivants, les oiseaux.
La cause de ce déclin des insectes, l'urbanisation, la déforestation, mais aussi les modes agricoles intensifs avec l'usage des pesticides.
La ville de Marseille est loin d'être sortie du scandale des écoles insalubres. Le plan Godin pour la rénovation, un partenariat public-privé, vient d'être retoqué par le tribunal administratif. À moins de 4 mois des européennes, France Inter en reportage à l'autre bout de l'Union et du continent. En Finlande, nous terminons donc ce journal là où nous l'avons commencé, en Europe. La Finlande qui partage une immense frontière avec la Russie et qui vit au gré des tensions entre l'Europe et Moscou. C'est ainsi qu'une ville à la frontière est devenue un repère des fake news, ces infos intox qui circulent sur Internet, notamment à l'initiative de trolls, de militants malveillants russes. Comment exercent-ils leur influence néfaste? Tout part d'un triple crime. France Inter à Imatra, entre Finlande et Russie, Mathilde Dehimi.
Dans la petite ville tranquille d'Imatra, il y a 2 ans, 3 femmes, une élue et 2 journalistes sont abattues par un homme dans un café du centre-ville. Un jour sombre pour Yarmo, qui a perdu des proches et découvert le pouvoir de nuisance des trolls.
Les fake news me font peur. Ce jeune homme, le meurtrier, était seul. Il est mentalement dérangé. Mais immédiatement après la fusillade, de fausses informations ont commencé à circuler sur un crime raciste contre les Russes. Mais il a fait ça sans aucune idéologie politique nationale ou internationale.
Rumeurs et polémiques se propagent sur les réseaux sociaux. Vesa Winberg de la radio-télévision publique Oulé se souvient avoir été appelée alors par des journalistes étrangers.
On a eu des problèmes avec ces articles malveillants, mais ça a considérablement diminué. On doit toujours rester vigilant, surtout ici à la frontière, vu la situation géopolitique. On sait que la Russie essaie d'influencer l'information.
En Finlande, c'est le thème de l'immigration qui apparaît alors que le pays est moins concerné que son voisin suédois. La divulgation de fausses nouvelles pourrait-elle jouer sur le scrutin européen ? Difficile à dire pour Rita.
Bien sûr que les fake news et les usines de trolls nous pourrissent la vie. Ça monte les gens les uns contre les autres. Mais difficile de savoir à quel point ça nous influence.
Ce n'est pas un hasard si Helsinki a été choisi par l'Union européenne et l'OTAN pour installer leur centre d'excellence contre les menaces hybrides.
Un reportage de Mathilde Dehimi en Finlande.
La météo avec Bleu Forêt. Le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac.
Sur toutes les régions du sud, le soleil est au rendez-vous. Mistral et Tramontane baissent un peu, jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Sur le nord-ouest, du soleil aussi. De belles éclaircies, de la baie de Seine jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. De l'est de la Picardie vers la région parisienne, la Sologne, le Lyonnais, la Grisaille résistent davantage. Quelques éclaircies bien appréciables reviennent tout de même. Ça reste plus encombré entre le plateau lorrain et le Val-de-Saône. Les températures affichent 5 à 9 degrés du nord-est à Rhône-Alpes, 9 à 13 en allant vers l'océan, 13 à 16 en Méditerranée. Demain, ça va s'améliorer, le soleil s'imposera vite, effaçant la grisaille du matin. Les gelées seront un peu plus prononcées que ce matin, ce qui pourrait rendre les sols glissants, soyez prudents.